Vous écoutez
RMC.
Il est 7h. Très bon réveil à tous.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. La paix au Moyen-Orient au cœur de toutes les discussions. D'un côté l'Iran et les États-Unis qui vont se retrouver au Pakistan. De l'autre, l'espoir d'un dialogue entre le Liban et Israël qui doivent se retrouver la semaine prochaine à Washington. Le 1er mai, férié chômé, c'est dans le code du travail, mais cela pourrait changer dès cette année. Le sujet est au programme des députés et il n'y avait pas de drogue dans le sac de Rima Hassan la semaine dernière lors de sa garde à vue. L'affaire a été classée sans suite.
Une paix entre le Liban et Israël est-elle possible ?
Il y a de nombreuses conditions à cela. Après les intenses bombardements de l'État hébreu qui ont fait plus de 300 morts mercredi au Liban, les deux parties doivent se retrouver. Léonie Guilbeault, ce sera la semaine prochaine à Washington.
Oui, c'est l'ambassadeur d'Israël aux États-Unis qui devrait diriger les pourparlers pour la partie israélienne. Côté libanais, c'est le Premier ministre qui fera le déplacement à Washington. Des négociations directes, sans intermédiaires, inédites depuis des décennies, mais qui devraient se tenir sans trêve, selon l'État hébreu. Objectif affiché par Israël, le désarmement du Hezbollah par l'armée libanaise et l'établissement de relations de paix entre les deux pays. Le Liban, de son côté, propose l'ouverture de ces négociations depuis un mois déjà, mais exige avant tout un cessez-le-feu. Le Hezbollah pro-iranien, quant à lui, a rejeté toute forme de négociation et exige le retrait israélien du sud du Liban.
L'Iran et ses négociateurs ascendus au Pakistan aujourd'hui afin d'y rencontrer leurs homologues américains en marge d'une première journée de prise de contact. Les deux parties entreront dans le vif du sujet à partir de demain autour d'une paix au Moyen-Orient. Il sera question du détroit d'Ormuz, nerf économique de cette guerre, et l'idée d'un possible péage imposé par l'Iran fait craindre un échec des négociations mises en garde de Donald Trump. L'incertitude demeure et cela n'est pas de nature à rassurer les marchés. Et donc encourager une baisse rapide des prix à la pompe, comme le souhaiterait le gouvernement. C'est ce que dit le ministre de l'économie, Roland Lescure.
Les marchés sont extrêmement volatiles. On attend de voir la manière dont le cessez-le-feu va se mettre en place de manière très concrète. Et les espoirs d'ouverture du détroit d'Ormuz à ce stade, évidemment, ne sont pas matérialisés. On est quand même sur des niveaux de prix aujourd'hui qui sont inférieurs à ceux qui prévalaient il y a deux jours. Donc nous, on espère, et on a eu des engagements en ce sens, que ça puisse se retrouver sur la pompe au fur et à mesure des réapprovisionnements. Vous le savez, les cuves sont réapprovisionnées au fur et à mesure qu'elles se vident. Et donc ça peut prendre quelques heures, quelques jours. Moi, ce que je souhaite, c'est que quand ça baisse sur les marchés, ça baisse à la pompe.
Et puis le soulagement des pêcheurs corses qui ont levé les blocages hier soir après 3 jours de mobilisation. Ils ont obtenu une aide de la collectivité de Corse pour 2 mois afin de compenser la hausse du carburant marin. Notez enfin que sur le front ukrainien, Kiev et Moscou se sont accordés sur un rare cessez-le-feu pour le week-end à venir à l'occasion de la Pâque orthodoxe.
Le 1er mai, jour férié et chômé, mais peut-être plus pour longtemps.
Le débat est de retour. Il fait l'objet d'une proposition de loi Renaissance débattue aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Le texte prévoit d'autoriser certains commerces d'embaucher sur base du volontariat et payer double leurs salariés le jour de la fête du travail. Seraient concernés les commerces de bouche, mais aussi le monde de la culture. Si la gauche et les syndicats sont vent debout, l'idée ravit ces commerçants rencontrés par Martin Bourdin à Colombes dans les Hauts-de-Seine.
Depuis l'intérieur de sa boutique, au milieu des plantes,
bonjour madame.
Mourad, le fleuriste, a une vue directe sur la rue piétonne.
Le 1er mai, l'après-midi, c'est vide.
Il a toujours travaillé le 1er mai et il l'avoue, même si c'est interdit pour l'instant, il a souvent eu des salariés en renfort.
C'est un grand chiffre, le 1er mai. Sur le mois, c'est au moins 40% de chiffre d'affaires. Ah, bien sûr, on prend les risques, même s'il y a des contrôles, je les paye. Par rapport aux chiffres, quand on va perdre, ça vaut le coup. Mais si nous soulage, c'est très bien.
Avec cette proposition de loi, seuls les salariés volontaires pourraient travailler. Et des volontaires, il y en a dans tous les commerces de cette rue. Boulangerie, boucherie ou chez le poissonnier où travaille Isabelle.
Tout le monde devrait avoir le choix de travailler ou non.
C'est payé double, donc c'est intéressant.
Un discours qui interroge quand même certains clients dans la rue.
Il s'agit d'un bien acquis il y a très longtemps. Et je souhaite que les travailleurs les gardent, ces acquis.
Je ne vais pas revenir sur un acquis social étant donné que c'est du volontariat.
C'est Paul, le patron de la poissonnerie, qui répond.
On ne vit plus dans les années où on s'est battu pour le 1er mai. Au mois de mai, c'est un gruyère. Il faut vivre avec son temps et laisser un peu les gens faire comme ils le souhaitent.
Et son espoir, c'est que la rue piétonne soit bien plus fréquentée tout au long de la journée, le 1er mai prochain.
Et je vous attends au 32-16 pour défendre ou non, justement, ce 1er mai, chômer ou travailler. Et puis ne manquez pas, juste après le journal de Thibaut Texer, la patronne de la CGT, Sophie Binet, qui sera donc mon invitée.
classé sans suite. L'affaire concernant le prétendu stupéfiant retrouvé dans le sac de Rima Hassan en marge de sa garde à vue, c'était la semaine dernière. Il s'agissait en réalité de CBD, ce que l'eurodéputé a toujours défendu, s'estimant sali. Elle dénonce avec les Insoumis et son avocat Cyprien Pézril un naufrage médiatique et judiciaire.
Oui, un scandale d'État, dénonce même Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise. Une cabale politique et des barbouzeries judiciaires, écrit aussi le mouvement dans un communiqué. Les résultats d'analyses toxicologiques n'ont pas confirmé la présence de drogue dans les affaires de Rima Hassan. Il s'agissait de CBD acheté légalement pour un usage médical, explique son avocat. Les Insoumis qui ripostent donc par les mots, mais aussi sans doute devant la justice. La députée européenne a surétudié le dépôt de plainte contre des médias et des personnes ayant diffusé de fausses informations. En revanche, Rima Hassan reste bien poursuivi pour apologie du terrorisme. C'était le motif initial de sa garde à vue. Le procès aura lieu début juillet. Il lui est reproché une publication sur X, supprimée depuis, évoquant l'auteur d'un massacre en Israël dans les années 70.
Les obsèques de Loana Petrucciani ce matin à Nice, 15 jours après le décès de l'ancienne vedette de la télé-réalité à 48 ans, vraisemblablement dû à une chute à son domicile. Le début des vacances scolaires ce soir pour la zone B. Bison futé hisse le drapeau orange en retour sur le pourtour méditerranéen.
Strasbourg a souffert hier soir en quart de finale aller de la Ligue Europa Conférence.
Première défaite de la saison pour les Alsaciens dans la compétition, battue sur la pelouse de Mayence. 2-0 sans vraiment batailler, Clément Brossard.
C'est dans une ambiance bouillante que Strasbourg a coulé hier sans une partie de ses supporters au début de match, bloqués à la frontière allemande et déçus à la sortie du stade.
Oh, c'est un peu laborieux.
Il manquait d'envie, manquait de tout. Un des pires matchs que j'ai vu du Racing cette saison.
Pour son premier quart de finale européen depuis 46 ans, les Alsaciens ont été dépassés dans tous les secteurs du jeu. Le prix de l'apprentissage pour l'entraîneur Gary O'Neill.
Les joueurs doivent comprendre l'importance du moment et apprendre vite. L'atmosphère est quelque chose de nouveau pour beaucoup d'entre eux à ce niveau de la compétition. C'était un gros test, mais le groupe apprend.
2-0, voilà presque un score flatteur pour des Strasbourgeois qui auraient pu partir les valises plus lourdes sans un grand Mike Penders. Le gardien belge veut encore croire en la qualification.
On peut faire mieux, c'est aussi simple que ça. Il y a deux buts à remonter, on doit réagir à la méno, on pourra faire une différence à la maison.
Il faudra jeudi prochain jouer un vrai match de Coupe d'Europe pour que Strasbourg espère se qualifier en demi-finale d'une compétition continentale pour la première fois de son histoire.
Et pour être en forme, Strasbourg et le PSG se sont vus accorder un week-end de repos. Bah, Ligue 1 pour eux, elle reprend ce soir à 6 journées de la lutte pour le podium. Se poursuit à distance entre Monaco qui se déplace sur la pelouse du Paris FC et Marseille opposé à Metz. L'OM qui devrait connaître le nom de son nouveau président. Sur nos informations, il s'agit de Stéphane Richard, ancien PDG d'Orange. Le propriétaire du club, Franck Macourt, doit l'annoncer ce matin au Vélodrome à 11h.
C'était le journal de Thibaut Texer, il est 7h08. Regardez ça, écoutez ça. Gabriel Attal qui se filme dans une boulangerie, qui se filme chez un fleuriste. Vidéo diffusée sur les réseaux sociaux cette semaine, écoutez.
Bonjour madame.
Bonjour monsieur.
De tradition, pas trop cuite s'il vous plaît.
Très bien.
Est-ce que vous saviez que les boulangers et les fleuristes n'avaient pas le droit d'ouvrir leur boutique le 1er mai ?
Gabriel Attal qui défend donc ce projet de loi, les députés qui se prononceront tout à l'heure sur la possibilité de faire travailler les salariés le 1er mai. Bonjour Sophie Binet.
Bonjour.
Vous êtes la secrétaire générale de la CGT. Vous êtes très remontée sur cette proposition de loi. Vous redoutez que des grands groupes en profitent pour obliger leurs employés à travailler sous couvert de volontariat. Pas touche au 1er mai, votre parti pris ce matin. Vous nous le dites dans un instant. Et vous qui nous écoutez sur RMC, n'hésitez pas à nous appeler au 3216. Est-ce que vous êtes pour ou contre le travail le 1er mai, sous quelles conditions? Je vous attends bien sûr au 3216 par téléphone ou sur le WhatsApp 0612 424 424. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
7h12 et vous êtes bien sûr RMC et RMC Story. Est-ce qu'il faut laisser les salariés travailler le 1er mai ? Les députés doivent voter aujourd'hui un texte qui propose aux salariés, notamment des boulangers et des fleuristes, de pouvoir travailler ce jour férié. Bonjour Sophie Binet.
Bonjour.
Vous dirigez la CGT et vous êtes vent debout contre cette proposition qui est soutenue par les macronistes, Gabriel Attal en tête. Ce texte va profiter aux grands groupes. Voilà ce que vous dites. Pourquoi vous dites ça ?
Bah parce qu'il y a beaucoup de mensonges en fait dans cette histoire sur le 1er mai. Le premier mensonge, c'est que c'est pas un texte pour les artisans. Les artisans peuvent aujourd'hui travailler le 1er mai. La seule contrainte, c'est qu'ils n'ont pas le droit de faire travailler les salariés. Le
bah, deuxième, c'est pas une petite contrainte. C'est-à-dire quand vous voulez ouvrir une boutique,
bien sûr. Mais c'est un jour dans l'année. C'est un jour dans l'année, donc je pense que ça peut aller. C'est complètement exceptionnel. Le deuxième mensonge, c'est que on nous parle des boulangeries, des fleuristes, mais en fait les dérogations sont beaucoup plus larges. Ça concerne tout le secteur alimentaire, la vente alimentaire de détail, dont toute la grande distribution. l'inflation, les Carrefour Market, etc. Et puis, effectivement, c'est pas des artisans.
Alors, je vous arrête quand même. Le ministère dit pas du tout. Ils disent que ça ne touchera absolument pas les. Ils disent ce sera boulangerie, fleuriste, boucherie, poissonnerie, chocolaterie, primeur et les établissements à vocation culturelle.
Non, c'est pas vrai. Il y a quatre dérogations dans leur texte.
Il y a quelqu'un qui ment dans ce texte. Soit
suffit...
c'est le ministère de l'économie, soit c'est vous, mais.
Il suffit juste d'aller lire la proposition de loi. Il y a quatre dérogations, dont une, c'est les commerces alimentaires de détail. Un Carrefour Market, c'est un commerce alimentaire de détail. La grande distribution vend de l'alimentaire et donc pourra ouvrir.
Je pose la question à Michel-Edouard Leclerc, qui sera de toute façon mon invité à 8h30.
Oui, vous lui demanderez, mais en tout cas, tous les markets, tous les franchisés pourront ouvrir. Pourquoi est-ce qu'il y a cette dérogation? Et puis, effectivement, c'est pas une loi pour les petits artisans, c'est une loi qui est poussée par les industriels, qui existe aussi dans le secteur de la boulangerie. Par exemple, Marie Blachère, c'est 14 000 salariés. Paul, c'est 12 000 salariés. Les fleuristes Interflora, c'est une grande chaîne, ça n'est pas un artisan. Et puis, c'est aussi les animaleries qui pourraient ouvrir le 1er mai. Et le secteur culturel, ben là, ça pourrait être la Fnac, Virgin, des grandes librairies de ce style-là. Donc, ça pourrait concerner jusqu'à 1,4 million de salariés. C'est pas juste ciblé sur les boulangeries et les fleuristes. Alors, dernier mensonge, c'est la question du volontariat et des majorations. Interviewez celles et ceux qui travaillent le dimanche. Combien d'entre elles, combien d'entre eux vous diront que s'ils avaient vraiment le choix, ils ne travailleraient pas le dimanche? Le travail du dimanche, c'est la norme dans un certain nombre de secteurs, justement ceux qui seraient concernés par le 1er mai. Et maintenant, c'est même intégré dans le contrat de travail. Et quand on leur demande à ces salariés, ils et elles vous disent que ça n'est souvent même plus majoré. Donc ça, c'est toujours pour commencer à créer une dérogation.
Donc vous avez peur que ce 1er mai, dont on rappelle aujourd'hui que, effectivement, officiellement, en tout cas dans cette loi, ce sera un sur la base du volontariat. Si on n'a pas envie de bosser le 1er mai, officiellement, on pourra dire non. Et par ailleurs, ce sera payé double, voire même triple chez certains boulangers.
En fait, le volontariat en droit du travail, c'est souvent en trompe-l'œil. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un code du travail. Si on pouvait se reposer sur le volontariat, pourquoi interdire aux femmes enceintes de travailler, par exemple? Pourquoi interdire aux enfants de travailler? Pourquoi interdire le travail dangereux? On pourrait dire, ah ben non, elle a voulu travailler alors qu'elle est enceinte, c'est son choix. En code du travail, en au travail, il y a un lien de subordination avec l'employeur. Donc, il y a des choses qui doivent être interdites pour protéger les salariés parce que le volontariat ne suffit pas.
Marcel nous appelle de Fécamp. Bonjour Marcel.
Oui, bonjour.
Ouais, comment ça va? Vous êtes agent de sécurité et vous vouliez témoigner parce que vous travaillez le dimanche, c'est ça?
Oui.
Enfin, le dimanche, les jours fériés.
Oui, dimanche, jours fériés. J'ai jamais eu de problème à travailler les dimanches et jours fériés. Ça a des avantages. Les jours fériés, c'est payé double, effectivement. Donc, Madame Binet est gentille en disant que c'est sur le volontariat. Mais je pense que quand on sait que déjà d'emblée, on va travailler les jours fériés, on est au courant. Si on n'a pas envie de travailler les jours fériés, on change de métier, on fait quelque chose, un endroit où on est fonctionnaire, ou je sais pas. Je suppose que dans les locaux de la CGT à Montreuil, il y a un service de sécurité qui travaille les jours fériés et dimanche pour assurer la sécurité des bâtiments. Donc voilà, il faut travailler un jour férié, c'est sur le volontariat, ou si c'est dans les sociétés, il faut accepter.
Je vous propose, vous savez quoi, qu'elle vous réponde directement, Sophie Binet, Marcel.
Oui, malheureusement, il y a des millions de salariés qui sont obligés de travailler le dimanche, les jours fériés, et qui travaillent déjà le 1er mai.
Mais ce que j'entends dans vos mots, Marcel, c'est que vous dites pas malheureusement, vous en êtes plutôt, enfin voilà, ça fait partie de cette situation dans votre job, et vous en êtes pas malheureux, vous avez pas l'impression de le subir.
Ah, pas du tout, ça me permet justement de faire mes courses en semaine où il y a moins de monde. Moi, à Fécamp, une très jolie plage, si vous venez un jour, vous verrez. Ça me permet de me promener sur la plage et il y a moins de monde. Donc voilà, ça a beaucoup d'avantages finalement.
Vous y trouvez vos avantages, Sophie Binet?
En fait, ça dépend de la situation de chacune et de chacun. Mais pour ce qui concerne le travail du dimanche, ça s'est appliqué essentiellement à des femmes qui ne peuvent plus voir leurs enfants, leurs proches le week-end. Ça a cassé les vies de famille avec des gens qui sont obligés de travailler le soir et le week-end. Et comme l'a dit monsieur, je suis d'accord avec lui sur ce point, si on n'est pas d'accord, on change de métier. Mais tout le monde ne peut pas changer de métier. Il y a 6 millions de chômeurs dans ce pays. Il y a plein de gens qui font des boulots parce qu'il n'y a pas le choix, il faut bien remplir le frigo.
Vous avez entendu ce sondage, Opinionway pour la Confédération des PME, qui dit que 3 Français sur 4 veulent pouvoir travailler le 1er mai. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils veulent bosser le 1er mai, mais ils veulent pouvoir le faire s'il le souhaite.
La question n'est pas posée comme ça. La question, c'est si le travail... Est-ce que êtes-vous d'accord pour qu'au volontariat, on puisse permettre le travail le 1er mai ?
Ce qui est quand même, pardon, ce qui est quand même l'intitulé de cette loi. Alors, vous dites que le volontariat est tordu.
Voilà, la question, c'est la réalité du volontariat. Et encore une fois, on l'a vécu pour le travail du dimanche. Aujourd'hui, initialement, le travail du dimanche, ça devait être payé double. Aujourd'hui, les salariés qui sont payés double le dimanche, c'est marginal. Il y en a pour lesquels ça n'est même plus majoré. Et donc, on commence par créer une dérogation. Ensuite, cette dérogation devient la règle et du coup, n'est plus majorée. Un jour dans l'année où les salariés n'ont pas le droit de travailler, franchement, c'est pas la mer à boire, sachant qu'il y en a déjà quelques millions qui travaillent le 1er mai sur des fonctions essentielles, comme la sécurité, la santé, des usines qui ne peuvent pas fermer, etc.
Oui, mais il y a déjà, par exemple, aujourd'hui, un salarié de McDo travaille le 1er mai.
Oui.
Et un salarié d'une boulangerie, alors certes, vous allez me dire, il y a beaucoup de boulangeries industrielles, mais il y en a aussi qui sont artisanales, lui, il peut pas bosser.
Ben ça, le McDo, c'est un problème. Mais c'est le gouvernement qui l'a ouvert, qui l'a autorisé, en fait. Il y a eu des batailles des syndicats pour dire les 1er mai, les McDo ne doivent pas ouvrir le 1er mai. Et c'est le ministre du Travail de l'époque qui a autorisé McDo à ouvrir le 1er mai, ce qui est pas normal.
Vous serez devant l'Assemblée nationale ce matin?
Oui, je serai devant l'Assemblée nationale pour dire que, franchement, aujourd'hui, alors que des millions de travailleurs et de travailleuses n'arrivent pas à remplir leur n'arrivent pas à payer leur carburant, que les licenciements se multiplient, les députés devraient avoir une autre priorité que de s'attaquer à notre journée le 1er mai.
Merci Sophie Binet d'avoir répondu à mes questions ce matin et à celles de Marcel. Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT. Il est 7h20 et on va remonter le temps comme chaque matin avec Arthur Chevalier. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur, historien d'Apolline Matin, Peter Pan est entré hier dans la Pléiade.
En avant les amis, nous partons au pays imaginaire.
Oui, on connaît tous ce dessin animé, mais avant d'être un Disney, Peter Pan, c'était un roman écrit par un auteur qui avait lui-même refusé de grandir.
Et vous nous le direz dans un instant, il y aura aussi Arnaud Demange qui va venir pirater le face-à-face. Mon invité, je le disais, c'est Michel-Édouard Leclerc. Ne bougez pas, on se retrouve dans 55 secondes sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h21 et on va remonter le temps comme chaque jour. Et on va surtout lire ensemble Arthur Chevalier. Il y a donc ce célèbre héros de dessin animé, Peter Pan, qui fait son entrée au panthéon de la littérature.
Et on peut
vraiment dire ça.
Et oui, absolument, puisque avant d'être un dessin animé, Peter Pan, c'est le héros d'un roman. Et ce livre vient de faire son entrée dans la collection La Pléiade des éditions Gallimard. La Pléiade, c'est la collection de littérature française la plus prestigieuse de toutes. C'est donc une consécration.
Mais à l'origine, qui est le père de Peter Pan ?
Eh oui, puisque Peter Pan a un papa, c'est un écrivain anglais de la fin du 19e siècle qui s'appelait James Matthew Barry. Et alors vous allez voir, entre sa vie et celle de sa créature Peter Pan, il y a beaucoup de points communs. Et tout ça commence par un drame, puisque quand il a 6 ans, James Barry perd son frère aîné. Ce frère va tellement lui manquer qu'il va se mettre à ne parler que de lui. Il se met à porter les vêtements de son frère, à imiter la voix de son frère. Tout ça pour se donner l'illusion que son frère est encore là.
Et ce traumatisme, il va avoir des conséquences sur la suite de sa vie. Hein.
Oui, d'abord des conséquences physiques, puisque avec ce choc, la croissance de James Barry va s'arrêter. Donc sa taille ne dépassera jamais les 1m55, donc il était très petit. Et à partir de là, il va totalement rejeter le monde des adultes. C'est décidé, il ne grandira jamais, il n'aura jamais d'enfants, même s'il en adoptera beaucoup. Et dans son œuvre, il ne parlera que des enfants, ou presque, ça va devenir une obsession.
Il va quand même grandir, puisqu'il va inventer Peter Pan.
Il va quand même grandir, effectivement, et il va devenir écrivain. Et la première fois qu'il imagine Peter Pan, c'est pour une pièce de théâtre, une pièce qui est jouée à Londres, la première fois en 1904. Cette pièce, elle s'appelait Peter Pan, ça va avoir un succès énorme. Et c'est justement cette pièce que Barry va ensuite adapter dans un roman qui sort 7 ans plus tard. Ce roman, il s'appelle Peter et Wendy. C'est d'ailleurs ce livre qui entre dans la collection La Pléiade. Alors l'histoire, vous la connaissez tous, hein. Peter Pan est un enfant qui refuse de grandir et il accueille des enfants morts ou abandonnés dans un pays imaginaire. Alors attention, parce que dans le roman, Peter Pan est un héros très sombre et pas du tout gentil, puisqu'il tue des enfants. Hein.
Il tue des enfants ?
Oui, il tue certains, pas tous, mais il tue des enfants.
Peter Pan va même être repris par la psychanalyse. Hein.
Et oui, en 1983, un psychanalyste qui s'appelait Dan Kiley écrit un livre qui s'appelle « Le syndrome de Peter Pan ». Alors qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une sorte de maladie psychologique qui désigne les enfants angoissés à l'idée de devenir adultes ou les adultes qui ne supportent pas de grandir.
Peter Pan, c'est aussi bien sûr donc le dessin animé.
Et oui, puisqu'un des premiers fans de Peter Pan, c'était Walt Disney. Il avait vu la pièce quand il était petit et son rêve, c'était de l'adapter. Donc il le fait en 1952. Hein, il réalise ce dessin animé que tout le monde a vu. Et dans cette version, Peter Pan est beaucoup plus gentil que dans le roman. Il ne tue personne. Ça sort en France en 1953 et ça va cartonner plus de 7 millions d'entrées. C'est ce dessin animé qui fait de Peter Pan un mythe universel.
Extraordinaire. Extraordinaire. Merci Arthur Chevalier de nous faire voyager dans la littérature, dans le cinéma, dans l'histoire. C'est toujours passionnant d'être avec vous. Il est 7h24 sur RMC. On va accueillir Arnaud Demanche.
RMC.
Demanche Pirate, le face-à-face.
Et bonjour.
Et sois
bonjour.
Pas jaloux, je non, t'aime aussi. Arnaud Demanche est avec nous. Donc vous venez pirater le face-à-face à 8h30. Tout à l'heure, mon invité, ce sera le président du comité stratégique des centres Leclerc.
Oui. La voiture est en panne d'essence. Nous n'avons vraiment pas de chance.
Et oui, parce que devinez quoi, ah, Mathieu, il se demande ce que c'est.
Je l'ai plus.
C'est Sylvie Vartan, en fait. On connaît plus la version Sylvie Vartan que la voix du monsieur qui s'appelait Jackie quelque chose.
Ah oui.
Donc on va parler carburant, voilà, et pas musique, mais carburant. C'est toujours le chantier à ce niveau-là. En plus, les bombardements continuent en Iran. Je donne 2 jours à Donald Trump pour rejoindre la danse à nouveau, ce qui ne va pas arranger les affaires de Michel-Édouard Leclerc. Je pense que Michel-Édouard, il a dû appeler Trump. Tu veux pas plutôt bombarder les Super U ? C'est bien de bombarder les Super U. Tu sais, Dominique Schellcher, il a dit que t'étais un gros con. Hey, tu sais, il y a des islamistes à la halle aux vêtements, hein. Bombarde! Allez, la halle aux vêtements. C'est, et la halle aux chaussures. Mais comment on va faire sans pétrole? Comment Jack Lang va faire pour ses colorations, par exemple?
C'est pas vrai. C'est du 100% naturel. Comme mon visage. Vous êtes médisant. Oui, médisant. Médisant. Comme Peter Pan, je ne les ai jamais quittés. Je les ai retrouvés quand je jouais à Colin Maillard avec les neveux de Jeffrey Epstein chez Woody Allen. Bref. Tout ceci est quand même frustrant. Hein. La vie en ce moment, c'est relou. C'est-à-dire, tu claques tout ton salaire pour acheter de l'essence qui te permet d'aller travailler afin d'avoir un salaire. Pour acheter de l'essence qui te permet d'aller travailler afin d'avoir un salaire. Pour acheter de l'essence. J'ai l'impression qu'on se fait avoir quelque part.
Il y a un truc qui fonctionne pas.
Cherchons des alternatives. Voilà. Pourquoi Michel Édouard, il proposerait pas de l'essence made in France? Vous savez que chez Leclerc, il y a des cubis de Beaujolais. Des Beaujolais nouveaux bien acides. Je suis sûr que tu les mets dans ta Twingo, tu remportes les 24 heures du Mans avec. Ou alors t'attaches 8 bouteilles de coca sur ton toit, tu mets des Mentos dedans et pfff, ça file quoi. Faut trouver des bonnes idées. Vu le prix de l'essence en ce moment, la sécurité routière va aussi devoir refaire ses spots. En soirée, Sam, c'est celui qui conduit. Et Sam, c'est aussi celui qui ne boit pas. Et Sam, c'est aussi celui qui ne mange pas. Il peut plus manger parce que Sam, il a plus une thune. Il en a pas, il paye 2 euros le litre de sans-plomb. Tout ça pour ramener ses connards de potes en boîte. Eux, ils boivent des gintos, ils s'éclatent, ils repartent avec des filles. Et il faut les raccompagner chez eux parce que Sam, c'est le bon con qui fait le taxi. Sam, il a faim, il est seul, il est pauvre. Un de ses soirs, il va te foncer dans un platane et éclater la gueule de tous ses profiteurs. De toute façon, la vie est une truie. Ceci était un communiqué de la sécurité routière. Je ne sais pas si ça va faire baisser les prix de l'essence, mais reconnaissez que ça ne donne pas envie de conduire.
Il est 7h27, on se retrouve dans un instant pour la météo et le journal sur RMC. 7h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Clara Gabillet. Bonjour Clara.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Quelques centimes de moins dans certaines stations-service à partir d'aujourd'hui, mais le gouvernement reste prudent sur cette baisse des prix. Les marchés sont très volatiles. Israël veut négocier directement avec le Liban qui demande un cessez-le-feu préalable à toute discussion. Les deux pays doivent se rencontrer la semaine prochaine à Washington. Et puis l'adieu à Loana. Ce matin, de nombreux fans rassemblés à Nice pour les obsèques de la star de télé-réalité.
Le prix du carburant va-t-il enfin commencer à baisser?
C'est la question qui taraude les entreprises et les automobilistes en ce début de vacances pour la zone B et pour la Corse. Ça devrait commencer à se voir aujourd'hui avec la baisse du baril de pétrole. Mais Ameline Lavchin, le gouvernement préfère rester prudent.
Oui, les premières stations, celles qui ont le plus gros débit, devraient afficher des prix en baisse dès aujourd'hui, puis vers dimanche ou lundi pour les plus petites stations, moins souvent réapprovisionnées. Mais les ministres tempèrent, la situation est fragile et les espoirs de réouverture du détroit d'Ormuz ne sont pas matérialisés, alerte-t-il. Tout va donc se faire au jour le jour, station par station. Du côté des distributeurs, justement, on a surjoué le jeu, mais les marchés sont extrêmement volatiles, explique Francis Pousse, président des stations-service et énergie nouvelle chez Mobilience.
On a d'une part le cours du baril et derrière, à Rotterdam, on a le cours des produits finis. Sur ce gasoil, on a effectivement vu une baisse de près de 300$ en deux jours, mais malheureusement, on a déjà regagné 100$. Donc, on va avoir des baisses de 5 à 10 centimes, mais à condition que ce fameux Platz gasoil se maintient.
Conclusion, les distributeurs qui ont accès à du carburant moins cher pourront baisser leur prix. Mais si à Rotterdam, le cours du produit fini continue d'augmenter, le prix à la pompe pourrait de nouveau remonter.
Et en fin de journée, le Premier ministre Sébastien Lecornu doit prendre la parole pour, selon Matignon, tirer les leçons de la crise énergétique et pour trouver le carburant le moins cher près de chez vous. Vous retrouvez notre carte interactive sur l'appli RMC et sur le site rmc.fr. Incertitude qui tient toujours à ces blocages dans le détroit d'Ormuz où les navires sont toujours quasi à l'arrêt. Donald Trump met en garde l'Iran contre tout péage dans ce détroit. Le président américain, en revanche, très optimiste, dit-il, sur la possibilité de conclure un accord de paix avec Téhéran. Les négociations débutent aujourd'hui au Pakistan. Elles pourraient démarrer à Washington la semaine prochaine entre Israël et le Liban. Des négociations directes ordonne à son cabinet le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qui veut notamment désarmer le Hezbollah. Le Liban, de son côté, demande un cessez-le-feu avant tout début de discussion. Rien ne semble pourtant aller vers l'apaisement. En témoignent les récentes frappes israéliennes très meurtrières au Liban et ces tirs de roquettes du Hezbollah vers Israël ce matin. Pour autant, il y a de l'espoir, selon Ghassan Salamé, ministre libanais de la Culture.
Il n'y a pas de guerre qui cesse par baguette magique. La guerre cesse par une négociation. Nous disons que la négociation commence, qu'elle établisse un calendrier, un agenda, qu'elle définisse quel est le produit final de cette négociation. Et une fois que tout cela est fait, on verra ce que ça donne. Nous espérons que les Américains convaincront le gouvernement israélien non seulement de baisser l'intensité des bombardements qu'il fait sur le pays, mais de les arrêter entièrement pour que ces négociations s'engagent dans un minimum de sérénité et de paix.
Les boulangeries vont-elles pouvoir ouvrir le 1er mai? C'est aujourd'hui qu'on doit avoir la réponse. Les députés débattent pour clarifier les règles et pour acter si les commerçants peuvent faire travailler leurs salariés en ce jour traditionnellement férié et chômé. Plus de précisions dans le journal de 8h. Il est 7h34, le public l'a découverte il y a 25 ans à la télévision. Les fans de Loana s'apprêtent à lui dire adieu. Les obsèques de la gagnante de la première saison de Love Story ont lieu en fin de matinée à Nice. Elle qui a été retrouvée morte dans son appartement il y a 3 semaines après une longue descente aux enfers. La cérémonie sera ouverte au public aujourd'hui. Anna Jojard, les fans que vous avez rencontrés tiennent à y assister.
Devant l'immeuble où vivait Loana, Philippe, 49 ans, contemple les fleurs, les peluches et les mots destinés à la star de télé-réalité. Il a fait la route exprès pour elle.
Je viens de Saint-Étienne de la Loire. J'irai à sa cérémonie, ses funérailles, pour rendre le dernier hommage à une icône de la télé-réalité. Quelle icône, quelle femme, quel courage dans sa vie.
Une icône qui a aussi marqué Frédéric.
C'est la télé-réalité, c'est un personnage connu, médiatique. Voilà, c'est ça.
Quelques minutes plus tard, Marie s'arrête longuement devant la porte de l'immeuble de la star. Elle sera là ce matin pour ses obsèques.
Pour rendre un hommage à Loana, c'est ça, elle n'a rien par rapport à moi. Mais c'est vrai que quand j'ai entendu ça, j'ai dit Loana, une jeune femme comme ça.
Elle n'a pas été traitée à sa juste valeur, je pense.
Après les obsèques publiques, Loana sera incinérée. La crémation se déroulera en présence de sa famille et de ses proches.
Reportage à Nice d'Anna Jojard, notre correspondante dans le Sud-Est. En cyclisme, Paul Sexas peut mettre fin au suspense aujourd'hui sur le Tour du Pays Basque et creuser encore l'écart avant dernière étape au Tour d'Eibar en Espagne. Le jeune Français, toujours maillot jaune, qui se fait désormais un nom à l'étranger, Kevin Morand.
Oui, après le Portugal, pour sa première victoire professionnelle en février, c'est au tour de l'Espagne de s'émerveiller des exploits de Paul Sexas depuis lundi, y compris les plus jeunes comme Yon et Martin, 13 ans.
J'aime bien Sexas, il n'a que 19 ans, il est très jeune, mais c'est le plus fort, c'est impressionnant.
J'avais vu une vidéo de lui, mais là c'est une machine, il a beaucoup de puissance, il va tous les manger. C'est énorme d'être si jeune et déjà réussir autant.
Ces deux victoires d'étape en début de semaine avec des écarts importants sur ses concurrents ont marqué les esprits chez les spectateurs basques comme Eneko.
Je pense qu'il va gagner ce Tour du Pays Basque. Une performance à la portée des plus grands uniquement.
J'espère qu'il atteindra le niveau de Pogacar pour lui livrer un mano à mano.
Paul Sexas, lui, profite des applaudissements sur le podium et des demandes d'autographes matin et soir, mais reste focalisé sur sa course.
Ouais, c'est sûr que c'est bien. Après, je reste focus sur ce que je fais. Jusqu'à maintenant, ils n'ont pas réussi à me faire céder. Je me sens confiant, je me sens solide, je récupère bien. Sur cette course, je me sens vraiment à l'aise.
Paul Sexas devance son premier poursuivant au classement général de 2 minutes 19, un écart confortable avant les deux dernières étapes.
Et puis, on devrait connaître officiellement le nom du nouveau président de l'OM en fin de matinée. Conférence de presse du propriétaire Franck McCourt. Selon nos informations, c'est Stéphane Richard qui est pressenti, ancien patron d'Orange. Marseille qui reçoit Metz en Ligue 1 ce soir à 21h05. Juste avant, il y aura Paris FC Monaco à 19h.
Et puis le quintet, c'est à Vincennes ce soir. Départ 20h15.
La Dream Team des courses RMC vous conseille de jouer son favori, le numéro 14, Fighter Chronos. L'outsider, c'est le numéro 12, Ferrahan As, le 14 et le 12.
C'était le journal de Clara Gabi et il est 7h37. Il y a Laurent qui nous appelle de Corrèze. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Bonjour Laurent. Laurent qui est boulanger à Salon-la-Tour. Vous voulez pouvoir travailler le 1er mai et faire travailler vos salariés ou pas?
Oh ben on s'adaptera, hein. On attend la décision de la loi. L'année dernière, on nous a dit qu'il ne fallait pas travailler, on n'a pas travaillé. Les autres années, on nous a rien dit, on a travaillé. On s'adaptera, c'est la force de nos petites entreprises.
Oui, vous vous adaptez. Alors, vous avez entendu Sophie Binet, elle dit en fait, on dit que c'est pour les petites entreprises, on dit que c'est pour les artisans, mais la vérité, c'est que dans les très gros groupes, les Marie Blacher, les Paul, ben, ils vont faire travailler leurs salariés en prétextant que c'est sur la base du volontariat. Comment vous réagissez-vous?
Oh, ben je pense qu'une nouvelle fois encore, les syndicats sont déconnectés de la réalité. Parce que nous, on fait travailler les gens, bien sûr. Là, je regardais le planning, là, justement, avant l'intervention. Si on travaille le 1er mai, il y aura un boulanger et ma femme et moi. Voilà, on sera trois. On respecte le travail, le repos de tout le monde, du maximum. Ceux qui veulent travailler, travailleront. Les autres travailleront pas. Mais c'est vrai que, comme je suis aussi au bureau ce matin en train de faire la comptabilité, quand on voit l'état des trésoreries à la fin de l'hiver, chaque jour travailler va compter, quoi. Ça, c'est clair. Toutes les entreprises sont un peu dans le même cas, hein.
Chaque jour travailler va compter. Vous êtes dans une situation compliquée là, ça va?
Oh ben comme tous les collègues, ouais. Je vous ai envoyé plusieurs messages plusieurs fois.
Mais je sais.
On a payé pendant trois ans, on a payé des tarifs EDF exorbitants et du jour au lendemain, ma facture EDF a été divisée par deux. Et pendant trois ans, on a payé des tarifs qui étaient complètement déconnectés de la réalité, quoi. Et l'État a rien fait de ce côté-là parce que ils auraient pu intervenir dans le sens pourquoi nous laisser des abonnements de trois ans, quoi. Enfin, laisser des contrats de trois ans.
Merci Laurent pour votre témoignage et votre réaction ce matin. Laurent qui est boulanger à Salon-la-Tour en Corrèze. Tiens, ne manquez pas, vous pouvez le revoir sur le replay d'RMC Story. J'ai été passer une journée chez un de vos confrères. Laurent, il s'appelle David, il est boulanger dans les Deux-Sèvres. David, Apolline, chez vous, c'est encore visible sur la plateforme RMC Story et honnêtement, ça montre aussi votre quotidien à vous, Laurent. J'avais été partager sa journée à la boulangerie et je trouve ça important aussi de dire ce que vous vivez. Il est 7h39 sur RMC.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Excellent réveil à tous, il est 7h43 et vous êtes bien sur RMC. On va parler de ce procès présenté comme exemplaire et qui vire au fiasco. Ce procès, c'est celui de deux chefs présumés de la DZ Mafia, jugés pour un double meurtre qui date de 2019. C'est la première fois que ces narcotrafiquants étaient jugés. Bonjour Pierre Bazin.
Bonjour Apolline.
C'est vous qui suivez les débats depuis le premier jour à Aix-en-Provence pour RMC. Un procès complètement décousu qui a pris beaucoup de retard. Nouvel exemple hier en fin de journée avec de nouvelles tensions. Je voudrais que vous nous en fassiez le récit, Pierre.
Oui, pour contextualiser un peu, en fait, on a commencé à parler hier du fond du dossier seulement 1h30 avant la fin de la journée, vers 18h à peu près, avec l'audition d'une témoin importante. Mais d'un coup, on a senti de la tension entre la sœur de l'une des victimes qui était assise sur le banc des parties civiles et face à elle, certains accusés. On a aperçu des duels de regards assez noirs. Et puis les premières invectives ont commencé à fuser entre Amine Wallan, notamment l'un des accusés, qui sont emporte et qui s'adresse à la jeune femme en lui disant « Arrête de parler, toi là-bas ». L'autre se lève et lui dit « Je te parle si je veux ». Et puis la tension monte d'un coup, les avocats tentent de temporiser, mais quelques minutes après, il y a tout qui s'enflamme. Les insultes traversent la salle du box des accusés jusqu'au banc des parties civiles. Certains avocats dénoncent des insultes racistes qui visent des accusés. Il y a vraiment tout qui s'enflamme, la tension elle est extrême à Pauline à ce moment-là. Tout le monde veut s'interposer, des cris traversent toute la salle. Les accusés ne se contiennent plus. Il y a vraiment tout qui explose. On sent qu'à ce moment-là, c'est absolument plus tenable. Et puis, Et puis on voit sur le visage des policiers qui assurent l'ordre dans la salle qu'il y a quelque chose qui bascule. Ils ont l'air pas vraiment rassurés. Alors on est évacué très vite, en urgence. Le procès vient d'atteindre un niveau de tension absolument extrême, de violence, et même qu'on n'avait jamais connu jusque-là. Et pourtant, Apolline, depuis 3 semaines, on a vu beaucoup de choses assez inédites.
C'est incroyable, tout ça se passe quand même, il faut l'imaginer, dans la salle du tribunal. Et c'est dans cette salle du tribunal qu'au fond, la justice est si difficile à rendre. Vous le disiez, on a vu beaucoup de choses pourtant depuis le début de ce procès. Pierre, c'est un procès hors norme, par le profil des accusés évidemment, par le dispositif de sécurité également, mais ce qu'on retient, c'est effectivement ce déroulement. Il manque des étapes clé, et on a jusqu'à maintenant quasiment jamais entendu les accusés, ou alors on a entendu, comme vous disiez, leurs cris, leurs menaces, mais pas forcément sur le fond.
Ouais, figurez-vous que depuis 3 semaines, la cour n'a encore jamais posé une seule question sur le fond de l'affaire à un seul des accusés. C'est-à-dire que le verdict normalement prévu demain, et pour l'instant, on a permis jusque-là à l'un des accusés de ne jamais s'exprimer ni sur le fond, ni de permettre de se défendre, ni de répondre à des points précis de l'enquête. L'un d'eux s'agace assez régulièrement d'ailleurs. Il rappelle à la présidente, nous, on joue notre vie ici. Et puis, il a l'habitude de lever le doigt comme un écolier à l'école pour essayer de prendre la parole. Mais jamais, ou presque, on la leur donne, en tout cas sur le fond. Et il faut bien comprendre que ce procès, eh bien, il est mal parti depuis le début. La présidente de la Cour, qui dirige les débats, a montré très rapidement des difficultés à les tenir, ces débats, à s'exprimer. Elle a montré parfois qu'elle maîtrisait mal le dossier. Elle a eu des problèmes d'autorité aussi. Elle a fait des choix assez incompréhensibles. Et puis, alors que le temps est très restreint, eh ben, on a compris que l'organisation était assez chaotique, parce que normalement, aux assises, on doit raconter une histoire assez claire pour se forger un avis. Et bien là, c'est absolument décousu. On entend un bout d'expert par-ci, un bout d'expert par-là, un témoin ici, un témoin par-là. Bref, tout est décousu. C'est à ne plus rien y comprendre. L'un des avocats des accusés disait assez justement que c'est pas parce qu'on a la possibilité de faire appel que le procès en première instance, eh bien, doit être un brouillon. Là, on a vraiment le sentiment que c'est un brouillon. Et au final, on oublie presque que la cour est réunie pour évoquer ce double homicide qui date de 2019 dans un hôtel Formule 1 sur fond de trafic de stupéfiants, tellement on ne parle absolument plus du fond de l'affaire.
Pierre Bazin, encore une question sur l'enquête, parce que l'enquête sur laquelle repose l'accusation, elle aussi, elle a montré des faiblesses.
Oui, parce qu'on a senti qu'il y avait des témoignages qui étaient présentés comme des témoignages importants qui venaient de basculer. Il y a des questions, des points majeurs qui ont été pointés par les accusés, les avocats des accusés qui ont fait mouche à l'audience. On a même vu l'enquêtrice qui s'est enfuie du procès pendant son audition, qui après a dû revenir. Ça aussi, c'était assez inédit. On a vu cette enquêtrice quasiment admettre que pour l'un des principaux accusés, eh bien, les charges ne tenaient plus. Alors, on s'est posé la question de savoir si l'enquête avait été bien faite ou si c'est le contexte de ce procès qui rend tout ça compliqué. En tout cas, il faut dire que ce procès-là, qui était censé être une vitrine, en tout cas, c'était comme ça qu'il était présenté, notamment par le ministère de la Justice. Eh bien, ce procès, il a viré au chaos, et c'est à ne plus rien y comprendre.
Merci beaucoup, Pierre Bazin, pour ce récit détaillé. Vous êtes le journaliste police-justice d'RMC qui suit ce procès depuis le premier jour. Verdict normalement attendu demain. Il est 7h49, ils sont rentrés dans ce studio. La voix de gauche, Cécile Duflo. Bonjour Cécile. La voix de gauche, de droite, Charles Consigny. Bonjour Charles. Et tous les deux, vous allez en débattre. Jordan Bardella, vous l'avez vu, et sa nouvelle compagne, Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles, qui sont à la une de Paris Match, et ça relance cette question. Est-ce que c'est un passage obligé pour tenter de se normaliser, ou alors d'espérer rentrer à l'Élysée? Vous n'êtes pas du même avis, et on écoute vos arguments dans un instant. 7h49.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h50 sur RMC. Dans un instant, le duel du vendredi. Mais d'abord le bonus, Mathieu, avec une idée de sortie en famille.
Oui, pour le week-end. Alors même si nos enfants vont nous rappeler nos cheveux blancs, la musique de jeux vidéo s'invite à la Philharmonie de Paris.
une exposition qui retrace plus de 50 ans d'histoire, à commencer par les
boutiques
de Pong.
Oh là là,
Pong.
Oh là, là
exactement.
J'adorerais.
C'est là qu'Apolline s'est arrêtée dans le jeu vidéo.
Moi, c'est vrai que je suis restée à Pong.
Moi, j'ai commencé par la suite. Le parcours est pensé, vous allez reconnaître Zelda, comme un jeu vidéo. Plusieurs salles, des niveaux à franchir, des expériences interactives.
Mario Tetris quand même.
Oui, il y a Mario, tiens, si vous voulez. Vous voulez Mario ? Hop, il est là. L'exposition montre aussi comment la technologie a tout changé, des bornes d'arcade aux consoles modernes. Vous avez évoqué Tetris, on l'a aussi. Objectif affiché, séduire tous les publics, gamers ou non. Au départ, quelques sons rudimentaires, aujourd'hui, de véritables bandes originales. Tiens, comme Clair Obscur, Expédition 33, le jeu vidéo français qui a été multi-récompensé.
RMC, Apolline Matin,
le débat.
C'est vendredi, et tous les vendredis, ils débattent. Bonjour Charles Consigny,
bonjour.
Voix de droite. Cécile Duflot, voix de gauche.
Bonjour.
Est-ce que ça vous choque, Jordan Bardella, à la une de Paris Match, avec sa nouvelle compagne, la princesse Maria Carolina de Bourbon des Deux Siciles? Les responsables politiques doivent-ils obligatoirement afficher leur vie privée? Ça vous choque ou c'est logique, Cécile?
Ça me choque pas, mais ça m'attriste. Ça m'attriste parce qu'en fait, on considère que c'est un passage obligé, mais en fait, la vie politique, c'est déjà tellement compliqué pour les proches, que le mettre en scène, et en plus quand on connaît les histoires diverses et variées sur ce que ça recouvre de tensions, de drames, de mise en scène, de fausses vies parce qu'il faut donner le change, en fait c'est tragique et je pense que ça n'aide pas à ce que les hommes et les femmes politiques soient de bonnes personnalités, soient solides et soient sécures en fait.
Charles.
Non mais d'abord, je trouve le reportage grotesque, si vous voulez. Je trouve que ça se voit à 4000% que c'est une mise en scène.
Oui, soi-disant, Paris Match les aurait surpris.
Oui, tu parles.
Dans une escapade en Corse.
Oui, parce que bien sûr, quand on va se balader au bord de la mer, on met une cravate.
Alors, je crois pas qu'il y ait de cravate, mais il a un pull négligemment noué. Il a une cravate sur son pull.
Voilà, donc bon, moi je sais pas, chacun fait comme il veut, mais
à priori, et elle a un brushing impeccable.
En Corse, quand on va se balader au bord de la mer, on met pas forcément une cravate.
Non, c'est
voilà. Ensuite, je trouve ça, oui, très, très vintage et surtout très décalé par rapport aux enjeux du pays. Moi, c'est ça qui me frappe. C'est-à-dire que la France est extrêmement endettée. C'est un pays qui va extrêmement mal. Elle est politiquement bloquée. Elle dégringole dans tous les indicateurs. On est à l'aube d'une guerre avec les Russes. Les militaires nous disent ça arrivera avant 2029, etc. Et la figure principal, si l'on en croit les sondages de l'opposition, n'a rien de mieux à faire que des pages people. Bon, je trouve ça
bon,
un peu...
Bon, en même temps, Charles, on vous a vu.
Un peu décalé.
Une petite tasse de thé à la main dans Paris Match.
Oui, mais je vais vous dire, j'étais très content que c'était d'abord sur le site de Paris Match, ça n'est pas sorti dans la version papier. C'est pas la même chose. Donc ça, j'étais très content. Puis il n'y avait pas de mise en scène de ma vie privée, je suis désolé. Je parlais du Jura, etc. Il n'y avait pas de mise en scène de ma vie privée. J'ai une photo avec une tronçonneuse qui transmet un message politique. Il n'y avait pas de mise en scène dans les privés. Il n'y avait pas de... C'était pas mytho, si vous voulez.
Et vous, Cécile, vous avez déjà posé, ancienne ministre, vous
jamais.
Avez parlé de votre...
Je vais vous raconter l'histoire. On m'a beaucoup poussée, notamment, à faire ce fameux reportage dans Paris Match, qui est presque statutaire. C'est-à-dire, si vous êtes en photo, dans des photos familiales, dans Paris Match, ça veut dire que vous avez accédé à un certain rang, etc. Et je me souviens, on m'a dit cette phrase, c'est le prix à payer. Sinon, tu plafonneras. Et moi, j'ai dit, je paierai pas ce prix. Donc, tant pis, je plafonnerai si vous voulez, mais je paierai pas ce prix parce que, en fait, derrière, on n'imagine pas à quel point ça ravage la vie des personnes concernées.
Vous en avez souffert?
Alors, moi, j'ai eu plein de moments où ça n'a pas été facile, mais surtout, c'est compliqué la vie personnelle des hommes et des femmes politiques, parce qu'ils sont très pris, parce qu'ils sont très exposés, ils sont très critiqués. C'est encore plus compliqué pour les enfants. Moi, j'ai vu des tas de familles avec des grandes difficultés, des enfants, des adolescents qui allaient très mal. Donc, si en plus vous mettez ça en scène, c'est catastrophique. Et surtout, alors ça c'est sur les histoires de couple, parce que Charles, il parle de son amoureux. Et je vais vous dire une chose, je connais pas la vie personnelle de Charles, mais parfois, vous êtes tenté de donner des gages, c'est-à-dire y compris à votre vie personnelle, de dire, mais si je vais parler de toi, ça va aller, etc., etc. Parce que c'est hyper dur d'être dans l'ombre, et encore plus quand on est un couple hétérosexuel et qu'on est une femme exposée. Parce que je peux vous dire que ça fait des millénaires que les femmes sont habituées à faire les potiches décoratives qui vont bien avec le monsieur, mais les hommes pas du tout. Donc ce que ça accentue aussi, c'est probablement un déséquilibre des personnalités politiques. Parce que quand vous avez plus de havre de paix, quand vous avez plus la capacité de vous protéger dans une intimité,
au fond, vous laissez entendre, Cécile, que les politiques sont eux-mêmes victimes de cela.
Bah, il y en a qui ont commencé, hein, le tout début de l'histoire. On connaît l'histoire de Valéry Giscard d'Estaing. On sait ce qui s'est passé avec Ségolène Royal. Mais celui qui a commencé notamment avec les enfants petits, c'est Nicolas Sarkozy avec Bonne chance mon papa. Et en vrai, c'est compliqué parce que les enfants, ils peuvent pas décider. Et moi, j'ai des enfants adultes maintenant et je savais pas si j'avais raison à l'époque, hein, de jamais que la moindre mèche de cheveux apparaisse, même de dos, même tout ça. Et en fait, ils sont adultes et je pense qu'ils sont contents parce que c'est déjà suffisamment lourd. Faut leur éviter ça.
Cette semaine, il y a eu à la fois la une de Paris Match avec effectivement ce reportage autour de Jordan Bardella. Et puis il y a eu l'annonce de sa grossesse par Marine Tondelier qui l'a vraiment... elle a dit je vais vous annoncer quelque chose. Elle en a fait un vrai moment. Elle en a beaucoup parlé. Qu'est-ce que vous en pensez, Cécile?
Alors c'est drôle parce que moi j'ai été enceinte quand j'étais secrétaire nationale et je n'avais pas du tout parlé. Je comprends ce que fait Marine, notamment sur raconter ce que c'est que le parcours de PMA, ce que c'est que les premiers trimestres de grossesse difficiles, et l'incarner. Et après, moi, j'ai une affection, on a une partagée de grands moments de vie, donc j'allais dire que mon sentiment premier à son égard, c'est un sentiment affectueux, affectif, et je trouve que c'est dur, en fait, de alors je comprends pourquoi elle le fait, mais je trouve ça, et je sais surtout...
C'est une erreur, c'est ça.
Franchement, Il faut ce genre de choses, faut le sentir. Et donc j'ai bien vu, j'en ai parlé avec elle, je sais qu'elle le sentait, qu'elle avait envie de le faire comme ça. Donc je respecte. Je dis juste, j'ai vu aussi que ça avait fait du bien à plein de femmes. Je dis juste, la vie politique et pour les femmes politiques, c'est tellement dur. Le prix à payer est tellement élevé. Voilà, je suis inquiète pour elle un peu, mais ça doit être ma vibe de daronne, on va dire.
Moi, j'ai trouvé ça ridicule. J'ai trouvé que ça témoignait d'un melon extraordinaire. Marine Tondelier ne représente plus rien politiquement. Toutes les élections récentes ont démontré que son leadership des Verts est une catastrophe. C'est une idéologue totalitaire. Faire une interview juste pour dire aux gens « je suis enceinte » alors que ça n'intéresse personne, j'ai trouvé ça ridicule.
Mais on garde votre affection, Cécile.
Alors moi,
et là, on est sur vraiment deux points de vue très très différents.
Oui, et je suis pas d'accord du tout avec le ridicule, notamment parce que ce que j'ai vu, c'est l'effet que ça a produit sur toutes les femmes qui ont traversé les parcours de PMA.
On ne sait quoi pour penser qu'il faut faire une interview pour annoncer qu'on est enceinte.
Le débat du vendredi.
Femme enceinte.
Cécile Duflo, Jordan Bardella.
Une interview en prime time pour dire qu'elles sont enceintes.
Charles,
les femmes enceintes, elles le disent à leur employeur.
Jordan Bardella, la une de Paris Match. Marine Tondelier qui a annoncé sa grossesse. Vous en avez débattu et on voit bien qu'ils vont continuer à en débattre dans les couloirs. Il est 7h58, à tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.